Bonjour à tous, nous voici déjà au 8e épisode de cette 3e saison. Si vous nous suivez depuis des semaines ou des mois, vous avez peut-être en mémoire, tout comme moi, certaines rencontres extraordinaires que nous avons eues à ce micro avec des passionnés qui ont du cœur au ventre. C'est aussi le cas de nos invités cette semaine et particulièrement mon premier invité qui est de cette race de passionnés. Le docteur Jean-Pierre Chiasson est un allergique à l'ennui, un médecin encore plein d'ambition, alors que d'autres sont à la retraite depuis plus de 20 ans. Jean-Pierre Chiasson, 81 ans, a créé il y a 35 ans la Fondation David Chiasson en hommage à son fils aux prises avec des dépendances. Le dévoué médecin compte ouvrir une vingtaine de maisons David Chiasson d'ici 5 ans. Parce qu'une personne sur cinq sera touchée par la dépendance au cours de sa vie. Il sera en studio avec le directeur général, Jean-François Pedneau. Je recevrai ensuite Élise Boyer, directrice générale de la Fondation Holo, qui aide les femmes enceintes de milieux défavorisés à mieux s'alimenter. L'objectif, donner une chance égale à toutes les familles de mettre au monde des bébés en santé. Élise Boyer nous racontera comment l'alimentation des bébés au cours des 1000 premiers jours, sont essentiels pour le développement de son cerveau. Après la pause, le docteur Jean-Pierre Chiasson et Jean-François Pedneau. Notre premier invité cette semaine au Héros anonymes est un jeune médecin de 81 ans, avec des projets plein la tête et le cœur. Il est venu en studio avec le directeur général de la fondation qu'il a créée il y a 35 ans, Jean-François Pedneau. Bonjour, messieurs.
Bonjour, bonjour, bonjour.
Donc, la fondation David Chiasson. Vous travaillez, docteur Chiasson, depuis plus de 35 ans sur la dépendance au sens large. On parle souvent de l'alcoolisme, de la toxicomanie, mais dans le travail que vous avez fait depuis toutes ces décennies-là, vous l'avez vraiment étendu à la notion de dépendance. Quelle différence on fait ou est-ce que dépendance englobe plus que toxicomanie, alcoolisme?
Le nouveau terme qu'on utilise, c'est en fait l'addiction. En fait, ce qui est l'ancien terme des dépendances, que ce soit l'alcool ou médicaments dépendogènes comme les sédatifs ou d'autres médicaments, ou en fait des drogues de rue qu'on connaît bien, que ce soit la cocaïne, les amphétamines, le cannabis, le LSD. Or, et certains comportements aussi de dépendance, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux en psychiatrie a reconnu la dépendance au jeu, le jeu pathologique. Et on est en train d'élargir éventuellement là, la cyberdépendance qui est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé, et éventuellement, probablement, de la dépendance sexuelle, la cyberporno, par exemple.
Donc, on peut être addictif à plusieurs substances, mais aussi, est-ce que je comprends, à plusieurs comportements?
Bien, il y a des substances pharmacologiques, comme l'alcool, en fait, non plus dépendant, mais il y a certains comportements, en fait, qui sont potentiellement addictifs. Pas pour tout le monde, mais des gens avec des vulnérabilités génétiques, ou, en fait, certaines psychopathologies ou des carences affectives. Des gens, or, ils sont plus prédisposés à développer. Par exemple, avec les gens qu'on définit comme alcooliques ou troubles de l'usage de l'alcool modéré à sévère, il y a environ 60 % qui ont des vulnérabilités génétiques, minimum 50 %.
Et donc, ça joue quand même un bon rôle.
Ça joue un rôle. C'est pas une maladie génétique.
On va dire un rôle important.
C'est-à-dire que la prévalence de troubles d'addiction, selon les critères qu'on utilise, c'est environ 10 à 15 % la prévalence à vie.
Dans la société.
Dans la société adulte nord-américaine. Là. Mais, comme je vous dis, les statistiques peuvent varier selon les critères qu'on utilise. Mais ça demeure l'addiction, la toxicomanie, la pathologie psychiatrique la plus fréquente, encore la moins bien connue, la moins bien diagnostiquée, la moins bien traitée. Il existe encore des préjugés moraux à l'effet que c'est un manque de volonté, une faiblesse, alors que l'addiction ou la toxicomanie, c'est une maladie cérébrale. N'est pas alcoolique qui veut.
Puis n'est pas alcoolique qui ne veut pas non plus.
Non, bien en fait, il n'y a personne qui veut devenir dépendant, pour employer le terme que j'ai utilisé. Mais certains individus en viennent à consommer pour colmater un malaise intérieur qui, en fait, on appelle ça, du point de vue neurobiologique, le syndrome déficitaire de la gratification. C'est des gens chroniquement insatisfaits pour des raisons à vulnérabilité génétique ou, en fait, pour des carences, qui, un jour, se mettent à consommer et, tout d'un coup, en buvant, ils se sentent calmes, bien, sûrs d'eux-mêmes et le mal de vivre qui les habite disparaît. Or, ils choisissent un remède qui, un jour, va les rendre plus malades que la maladie.
On parle donc de gratification immédiate. C'est un peu pour ça que vous dites que peut-être les réseaux sociaux vont finir par entrer parce qu'on parle beaucoup que les réseaux sociaux, le petit pouce là, qui nous donne une espèce de high de bonheur parce qu'on est vu, on est entendu, on est considéré.
En fait, l'être humain est animé par la recherche du plaisir. C'est de la dopamine. Pour comprendre un peu, il faut savoir que les animaux que nous sommes, souvent moins intelligents qu'un orignal. J'ai rarement vu un orignal boire. Or, en fait, il y a deux circuits de survie dans l'espèce animale. Le premier, c'est manger. Si on ne mange pas, on meurt. Parce qu'il faut nourrir. On est un porteur d'un corps qui nous est prêté. Il faut le nourrir. Et si on ne fait pas l'amour, il n'y a pas d'enfant. Donc, il y a deux circuits fondamentaux qui existent, qui sont de manger et de faire l'amour, de baiser. Dans la toxicomanie, ça, c'est modulé, ces circuits-là, par ce qu'on appelle dans notre cerveau un noyau, le noyau accumbens. C'est le noyau, le centre des plaisirs, de la dopamine. Et les gens normaux, à un moment donné, mangent puis ils arrêtent. Ils ont une satiété. En toxicomanie, cette quête de plaisir devient tellement grave, et on peut l'avoir avec l'alcool en partie, avec la cocaïne, par exemple, qui stimule la dopamine 5 à 10 fois, le sexe encore, et certaines substances montent encore plus haut que ça. Il y a ce qu'on appelle un piratage des circuits de survie au détriment d'une quête intempestive de plaisir qu'on n'atteint plus. Parce qu'au début, le toxicomane ou l'alcoolique qui boit pour être bien, dans un deuxième temps, il boit pour ne plus être mal, parce qu'il y a ce qu'on appelle un phénomène de dysphorie, de manque qui s'installe, et l'individu essaye de rechercher ce manque qui l'habite, mais il y a telle enseigne que plus il boit, il atteint un petit peu, mais il ne réussit pas, mais il recherche un plaisir archaïque qu'il a déjà connu et qu'il ne trouve plus, mais le mal, la dysphorie, l'inconfort, l'anxiété, la dépression, l'hypersensibilité, la tristesse survient. Alors, un alcoolique qui arrête de boire, quand il ne boit pas, que la vie est ennuyeuse, qu'il n'y a plus rien à faire.
Ses neurones sont habitués au mouvement.
Bien, c'est-à-dire qu'il recherche un bien-être qu'il ne trouve plus. En consommant, il l'a transitoirement, mais chaque fois qu'il l'a, il descend plus bas. Et on appelle ça, et quand il arrête complètement, on sait que des alcooliques peuvent développer un sevrage, un état de manque aigu qui peut aller des simples tremblements jusqu'au délirium tremens, qui est une condition potentiellement mortelle, dans laquelle les gens se sentent mal, anxieux, et ça peut durer 4 à 6 jours, ça, grossièrement. Il y a ce qu'on appelle un sevrage subaigu, c'est-à-dire qui persiste longtemps, dans lequel... Parce que quand on stimule, du point de vue neurobiologique, notre cerveau pourrait chercher le plaisir, on fait monter la dopamine puis les endorphines. Mais quand il y a un manque, c'est les hormones de stress qui prennent le dessus. On appelle ça de l'adrénaline, l'adrénaline, la cortisone, et de laquelle ça persiste. Donc, ce qui persiste, c'est les neurotransmetteurs de stress. Alors, l'anxiété monte, l'inconfort... l'insatisfaction, le fait qu'on n'est plus capable d'apprécier ce qu'on fait. Alors, donc, on est en manque de plaisir, en anhédonie. Alors, le plaisir, on ne l'a plus, on n'a plus de plaisir. Donc, la vie est ennuyeuse, plate, et l'individu va donc anticiper. Il a hâte au vendredi soir, au jeudi soir, pour essayer de trouver, de combler cette espèce de manque.
Là, je comprends bien, là, vous nous avez parlé de toute une soupe chimique. Est-ce que c'est ces réactions-là chimiques en chaîne qui expliquent qu'il y a autant de gens qui font des thérapies et qui rechutent? Parce que je lisais ça, c'est un nombre assez
ouais, mais
élevé.
Avant en fait, les gens, les complications de la toxicomanie sont d'abord des complications comportementales, psychologiques, psychiatriques et physiques. Et quelqu'un qui arrête, qui manifeste le désir d'arrêter de consommer parce qu'il a fait des dommages, soit personnels ou interpersonnels, dans son milieu de travail, dans sa famille, puis à un moment donné, il n'en peut plus. Puis il décide de demander de l'aide. Souvent, les individus ne changent pas par vertu, mais par nécessité, parce qu'ils sont confrontés à une espèce de mur qu'ils font. Et là, ils sont dirigés en thérapie. Des thérapies qui durent 3, 4 semaines ou 6 semaines. Et en fait, le pourcentage de gens qui sortent de thérapie qui rechutent, c'est de l'ordre d'à peu près 60-65%.
C'est gros.
Et c'est un peu comme ça qu'on a créé la Fondation David Chiasson, parce que, en fait, on a précisé notre mandat au cours des dernières années, notre orientation. On s'est inspiré d'un modèle américain qui s'appelle Oxford House, qui, en fait, a créé des maisons de sobriété, Sober House, dans lequel les gens vivent, doivent s'occuper des tâches, demeurer abstinents, travailler ou étudier et faire du meeting ou de suivre une thérapie en externe, dans lequel ça devient des modèles d'apprentissage, d'autonomie, dans lesquels les gens vivent ensemble, ils s'encouragent mutuellement. C'est une famille symbolique parce que la plupart des gens, comme il y a de l'incidence, il y a de la génétique, souvent les alcooliques viennent de milieux dysfonctionnels, dont un des parents est alcoolique.
Quand on retourne dans le même milieu, des fois on avait des amis avec qui on avait des habitudes, donc on se retrouve encore. Tandis que là, de faire un ou deux meetings, le reste du temps, on est mieux d'être avec donc des gens qui sont sur le même parcours que nous.
Il faut trouver des sources de valorisation. En fait, les individus alcooliques, ils intègrent dans leur tête, en arrêtant de consommer, que la vie va être plate. Il n'y aurait plus les mêmes amis, il n'y aurait plus de 19e trou après au golf. Les fins de semaine ne sauront plus quoi faire, ils pourront plus s'amuser, ils pourront plus acheter de bons vins. Et toute la façon de socialiser pour beaucoup d'individus, c'est d'entrer en relation au travers. On va aller prendre un 5 à 7, on va prendre un verre. Et la façon d'entrer est... Parce que l'alcool, chez les gens normaux, agit quand même pour un dépresseur du système nerveux central. Là, ça enlève l'anxiété. Alors, souvent, on dit, quand je buvais, moi, je parlais anglais puis je parlais aux femmes parce qu'on est déjeunés, tu sais. Alors, cette façon d'anticiper le futur, qu'on les aide avec des fonctions cognitives, fait en sorte que les alcooliques, au-delà des malaises, ils ne voient pas l'avenir. Et ils sont incapables de conceptualiser. Et c'est un nouveau modèle là, qu'on appelle un modèle que j'emprunte au modèle bayésien, c'est un grand nom, dans lequel on anticipe dans notre tête des choses avant même d'en avoir besoin, que le manque arrive. T'sais, on prévoit déjà que ça va être ennuyeux la fin de semaine prochaine parce que je n'aurai rien à faire.
Mais vous, docteur Chiasson, vous êtes quelqu'un qui est capable d'anticiper l'avenir. Donc, on prend une courte pause et ensuite, on va parler de votre rêve pour la Fondation David Chiasson et plus particulièrement, là, comment ça s'opère, tout ça. De retour en studio avec nos invités pour les héros anonymes. Cette semaine, le docteur Jean-Pierre Chiasson et le directeur général de la Fondation David Chiasson, Jean-François Penneau. Docteur Chiasson, c'est passionnant de vous entendre parler du cerveau. J'imagine que dans votre cerveau, à vous, pour fonder cet organisme, il y a eu quelque chose qui a allumé. Qu'est-ce qui vous a amené à fonder, à vouloir donner autant d'amour à ces gens qui ont besoin là, de vaincre cette addiction?
Il y a eu deux phases. Tout d'abord, au début, on a créé ça pour faire un centre de transition, ça, il y a 35 ans. Par ailleurs, moi, j'ai eu un drame dans ma vie. J'ai perdu un fils il y a 23 ans, du nom de David, et qui s'est suicidé, qui avait eu des problèmes de toxico. Et pour toutes sortes de raisons, là, en fait, il y a eu une détresse affective, une blessure amoureuse, et il s'est suicidé. Et c'était le plus grand choc de ma vie.
Ah,
C'était la
j'imagine.
plus grande détresse qui m'habite encore tous les jours.
Oui.
Et pour transcender ces souffrances, il faut donner un sens à ça.
Oui.
Et le sens que j'ai donné, c'est de créer les maisons David Chiasson qui me permettent d'évaluer, de sentir et la détresse chez des individus qui sont souriants parfois, surtout les jeunes.
Oui.
Et ils ont souffert des souffrances camouflées. Moi, mon fils David, il avait toujours le sourire, mais j'avais de la difficulté à aller percevoir toute la souffrance qui l'habitait. Et en faisant ça, c'est que sa mort n'est pas inutile. Ça a
Vous
donné un
pouvez faire une
sens,
différence.
faire une
Ouais.
différence, d'aider particulièrement des jeunes, surtout dans une société actuellement dont les balises se sont effondrées depuis 40 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de famille, il n'y a plus de religion, on ne sait plus à qui on appartenait. Avant
Ça s'est
ça,
multiplié pas mal les formes de tout
écoutez,
ça,
là,
ouais.
on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. On se demande si c'est un homme ou une femme. On sait plus, on n'a plus de critères de référence. Et cette détresse-là, elle est omniprésente autour de nous. Beaucoup de gens sont en survie, beaucoup plus qu'on pense. Survie monétaire, survie émotionnelle, survie de reconnaissance, survie de satisfaction. Et les maisons, c'est où j'ai trouvé, là, de voir des gens qui se regroupent ensemble et qui c'est un laboratoire d'autonomie. On est
C'est
en
bien dit.
aval de la psychiatrie pour éviter que des gens se retrouvent dans la rue. Des itinérants, là, il y en a partout maintenant, partout en Amérique, puis je ne connais pas en Europe, là, mais c'est effrayant. Et souvent, quand on regarde, qu'est-ce qui les amenait là? Ce sont des gens qui étaient perdus, qui n'avaient pas de lien, qui n'avaient pas de sentiment d'appartenance. Les maisons David Chiasson, on espère, vont donner ce sens-là d'appartenance, de famille symbolique, de lien. Parce que quand quelqu'un nous rencontre le soir puis nous dit bonjour, ça fait du bien. Quand il nous sourit, ça fait du bien. Quand il demande comment ça va du bien. Qui participe à notre cheminement, ça fait du bien. Et c'est le but de ces maisons-là qu'on veut faire.
Vous dites là, qu'on a moins de repères. Est-ce que ça implique qu'il y a plus de comportements addictifs? L'addiction est plus présente qu'avant?
Écoutez, je ne suis pas un épidémiologiste, là, je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais je peux vous dire que on voit l'accessibilité est un facteur de risque. Et actuellement, par les réseaux Internet, on le voit avec les surdoses de fentanyl, puis il y a même des nouveaux produits qui sont 25 plus forts que le fentanyl, qu'on n'est même pas capable de détecter. Or, il y a une omniprésence de produits qu'on appelle des drogues de confection, qui sont accessibles par l'Internet, le dark web qu'on appelle, entre autres. Et c'est vrai que les facteurs de risque, on a légalisé le cannabis, donc on a lancé un message de banalisation. À l'époque, dans les années de Woodstock, il était à peu près à 2% de THC. Maintenant, la SQDC le vend à 30%.
Oui,
Puis
j'ai lu ça, c'est quelque
donc, c'est
chose.
15 fois plus fort, et dans le cerveau, c'est de façon exponentielle. Puis il y a même des consommations sous forme qu'on appelle de wax,
De
qui est
WAC?
WAX, la cire,
Ah,
du
d'accord.
cannabis qui a une teneur jusqu'à 90% de THC. C'est extrêmement neurotoxique et le pouvoir dépendogène est plus grand. Les jeunes qui consomment ça, ils deviennent beaucoup plus dépendants et ça handicape de façon irréversible chez les gens en bas de 25 ans le développement intellectuel, les capacités d'apprentissage, les fonctions synaptiques, le statut intellectuel, social. Et donc, il y a des. Et le cannabis est une drogue, hein? Ce n'est pas une drogue douce, c'est une drogue lente. Ça va dans le
Lente.
cerveau et ça a des effets sur la cognition, sur la compréhension, la capacité de conceptualisation, la motivation. Et pour certains individus vulnérables, ça peut déclencher de la schizophrénie, qui est une maladie extrêmement sévère. Alors, entre autres. Donc, ce dont je parle, c'est un phénomène de banalisation. Puis on le voit dans la société actuellement, une des grandes préoccupations, c'est de contrer les surdoses, où les gens meurent partout. Dans des régions comme Vancouver, c'est effrayant. Je me souviens plus du nombre de morts, il y a de suicides que tous les jours, même à Montréal, c'est effrayant, où les drogues jouent un rôle.
Même l'alcoolisme aussi, qui est banalisé. Moi, je me réjouis quand même de voir plusieurs campagnes de sobriété au moment où on enregistre l'émission. On est en plein défi 28 jours sans alcool. On voit de plus en plus de plateformes qui incitent ou même de produits justement de sans alcool. Est-ce que c'est pas réjouissant?
Il y a une tendance, en fait, pour les gens dits normaux, entre guillemets, d'une certaine modération, qui est en fait le projet de la Maison Jean Lapointe extraordinaire, 28 jours sans consommation. Par ailleurs, les alcooliques, c'est une autre catégorie, parce que tout le monde n'est pas alcoolique. Tout le monde n'est pas dépendant. Puis c'est pas tout le monde qui va devenir dépendant. Mais il y a des facteurs de risque, c'est multifactoriel. C'est-à-dire qu'il y a des facteurs génétiques, il y a des facteurs environnementaux, de vulnérabilité personnelle, certaines maladies psychiatriques favorisent ça. Par exemple, la maladie bipolaire.
Mais c'est ça, c'est ce que je comprenais, qu'il y a plusieurs facteurs concomitants qui contribuent. Puis comme vous le disiez tout à l'heure, il y a une disposition génétique de l'ordre de...
Vulnérabilité.
Vulnérabilité. C'est quoi la différence entre vulnérabilité et disposition?
Bien, dans le sens que ce n'est pas une maladie génétique.
D'accord.
Il y a probablement plusieurs gènes qui peuvent jouer un rôle. Je vous donne un exemple, par exemple. Les Asiatiques, sont déficients d'une enzyme qui s'appelle l'aldéhyde dehydrogénase. Quand ils boivent, la figure vient rouge. Ils ont chaud, puis la pression monte. C'est-à-dire que ça les modère un peu.
Et donc, mettons plus concrètement, là, si on parle des maisons de sobriété que vous avez fondées, puis que Jean-François, donc vous les opérez au quotidien.
Oui, exactement.
Et là, il y en a deux, c'est ça?
En fait, quatre? En fait, actuellement, on a deux résidences pour hommes à Montréal et deux résidences pour femmes qui accueillent en tout 19. On a 19 places, donc 13 places. Place pour les hommes, puis 6 pour les femmes.
Et vous avez l'ambition, j'ai compris, d'en créer tout plein d'autres?
Ben, en fait, le but, c'est vraiment de pouvoir offrir cette ressource-là au plus grand nombre possible, puis à travers les régions du Québec. C'est certain que moi, je suis en contact avec les centres de thérapie. Mm-hmm. Parce que souvent, nous, on intervient...
Après?
Oui, après un séjour en thérapie. Donc, un peu comme on disait un peu plus tôt, comme le docteur disait... l'idée derrière ça, c'est de faire en sorte que les gens se retrouvent dans un milieu où ils se sentent en confiance, où ils ne seront pas jugés, où ils sont entourés de personnes qui comprennent leur situation et avec lesquelles ils peuvent s'ouvrir et partager. Parce que souvent, quand on retourne dans notre milieu, on peut penser que la dépendance, c'est une maladie. C'est un peu comme on nous a mis un plâtre, tu es allé en thérapie, donc là, tu dois être capable de marcher. Alors que c'est une maladie chronique qu'on va avoir le restant de nos jours. Donc, faut apprendre à vivre ça. Donc, c'est un atterrissage, si on veut, en douceur. On n'ose pas parler de transition, parce que ça fait plutôt carcéral, mais c'est comme une passerelle, si on veut, entre la thérapie, les outils qu'on a acquis en thérapie, et on peut les mettre en pratique dans un environnement sécuritaire où il n'y a pas de consommation, où les gens connaissent notre réalité et où on développe justement une famille symbolique puis une reprise de responsabilisation. Ça, c'est...
Et comment on arrive à reprogrammer notre cerveau quand on sent cet ennui-là? Comment on arrive à le reprogrammer, à voir l'ennui comme le calme ou à trouver d'autres manières de se stimuler, mais qui va être bon pour notre santé?
Moi, je peux en glisser un mot en tant que moi-même dépendant.
Ouais.
Puis comment est-ce que je l'observe?
Vous avez fait ça?
C'est d'adopter des nouveaux chemins. Donc, souvent, le docteur pourra en parler, on parle de refaire des nouveaux circuits. Donc, ça, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on fait d'autres choses. On fait des choses différemment de ce qu'on faisait avant. Puis, on se met dans l'action. On cesse de s'isoler parce que souvent, les dépendants vont avoir tendance à s'isoler parce qu'ils sont incompris. Donc, les maisons brisent l'isolement, favorisent l'ouverture, la cohabitation. On fait un meeting familial par semaine, comme on dit, parce que ça permet à tout le monde de s'exprimer. Puis aussi, c'est un milieu qui est autogéré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervenant sur place. C'est démocratique. Donc, ça donne une certaine valorisation à chacun. Il y a des gens qui n'ont jamais eu de responsabilité dans la vie. Bien, chacun va avoir un rôle. Il va avoir un président, un trésorier, quelqu'un qui est responsable de superviser les tâches. Fait qu'automatiquement, tout le monde est...
Et tout le monde est égal dans le sens que c'est pas un parent ou un propriétaire qui met la pas la pression, mais la responsabilité. On s'engage l'un envers l'autre avec une personne qui vit la même chose.
Exactement. Ultimement, c'est moi qui vais avoir le dernier mot, sauf que c'est rare que je vais avoir à intervenir parce que le développement se fait entre eux autres. Puis ça fait partie de la reprise quotidienne de la responsabilisation de chacun.
Sur le même sujet, Dr Chiasson, comment on arrive à reprogrammer notre cerveau?
Reprogrammer son cerveau, on dit que ça prend à peu près 2 ans. De trouver des nouveaux circuits de récompense et de se refaire des nouvelles mémoires. Parce que le cerveau, lui, il enregistre. Comme on dit, l'être cognitif de l'homme, comme ça, on anticipe des choses avant que le besoin se fasse sentir. Tu sais, on va acheter 3 frigidaires pour le remplir de manger alors qu'on n'a pas faim. Tu sais, quand quelqu'un arrête de consommer, dans sa tête, il a tout intégré que les plaisirs qu'il pourrait avoir étaient tous reliés à des sensations. La reconstruction de mémoire passe par les relations. C'est-à-dire qu'on va privilégier la relation au détriment de la sensation immédiate pour être capable de créer, en fait, une espèce de paix. Parce que quand on développe des bonnes relations, on a une amitié. Même si ça fait 1 an qu'on ne l'a pas vu, dans 2 secondes, on rentre en relation. On est capable d'être à l'aise. Quand on est dans la sensation, on monte haut puis ça descend. Et l'exemple de la cocaïne, on monte trop, mais il y a toujours un prix à payer. Alors, c'est de reconstruire tranquillement et de reformuler, de refaire dans notre cerveau des modèles de référence autres que le supposé plaisir. Parce que les gens, quand ils arrêtent de consommer, c'est pas parce que ça va bien, c'est parce que ça va très mal. Très mal. Ils sont malades. Ils tremblent, ils ont fait des convulsions, ils ont fait un accident, ils sont en prison, la femme l'a mis dehors, la police est intervenue, ou ils ont vomi du sang. Il y a toujours un événement dramatique. Mais comme ils font de la réminiscence euphorique, c'est-à-dire qu'ils se souviennent juste du bon moment puis ils oublient tout le reste.
Dr Chiasson, ça a été un plaisir de passer ce temps avec vous. Merci également Jean-François Pedneau, directeur général de la Fondation David Chiasson. Merci pour votre travail extraordinaire auprès des êtres qui ont besoin de vous.
Merci de votre invitation.
Merci de l'invitation, c'était très apprécié. Merci beaucoup.
Alors, c'était nos 2 représentants de la Fondation David Chiasson.